L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Notre World Tour tout à l'heure. Notre French Tech Tour. Mais dans l'immédiat, c'est notre passion selon Sanette. Et on va s'intéresser à un ouvrage sorti aux éditions du Seuil. Il s'agit de L'âge du fer. Hacking, travail, anarchie. Et nous recevons à cette occasion, en compagnie de vous, Lila Megraoua, Michel Lallemand.
Michel Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Alors Michel Lallemand, vous êtes professeur au CNAM, vous êtes également titulaire de la chaire de sociologie du travail et membre du laboratoire du LIS au CNRS. Vous avez publié aux éditions du Seuil un ouvrage en février dernier, ouvrage baptisé « L'âge du fer, hacking, travail, anarchie ». Vous racontez votre immersion d'un an dans les hackerspace du nord de la Californie, en Silicon Valley. L'âge de fer, âge du fer, est-ce que entre l'âge de fer, l'âge du fer, on a, j'imagine, bien évolué. Alors pourquoi ce choix de titre?
Alors, par-delà le jeu de mots qu'il était en train de faire, c'est le cas de le dire, il y a deux idées qui sont contenues déjà dans le titre. Première chose, c'est que les modalités d'organisation du travail évoluent dans le temps. Donc, il y avait effectivement l'âge de fer au sens classique du terme. Et là, nous entrons aujourd'hui certainement dans un nouveau moment où on est en train de réinventer nos manières de travailler, de collaborer, de nous organiser collectivement dans des entreprises ou dans des espaces productifs. Donc c'est pour signifier que, notamment sous le choc de la révolution numérique, nous entrons vraiment de plein pied dans une nouvelle période. La deuxième chose et la deuxième raison, c'est que le terme de faire est la traduction de make, américain, et c'est un terme qui aujourd'hui est revendiqué par toute une série de groupes qui justement veulent inventer de nouvelles manières de produire, de s'organiser et pour sortir au fond de ce qui était notre épisode taylorien ou post-taylorien qui a très très longtemps duré.
Alors profitons-en pour dissiper un malentendu. On parlait énormément du mouvement faire, du mouvement maker, également du mouvement hacker. Comment on peut distinguer ces deux mouvances?
Alors, en fait, il faut partir des hackers. Les hackers, c'est un vaste monde, une très très grande famille, si vous voulez. Et comme dans toute famille, il y a des cousins, il y a des frères, il y a des sœurs, etc. Et donc, dans cette famille hacker, il y a une partie de la famille qui est représentée par ce qu'on appelle en réalité des crackers. Les crackers, qui correspondent à l'image qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de hacker. Et c'est effectivement cette image-là qui a véhiculé beaucoup la sphère médiatique en parlant des pirates qui vont à un moment donné rentrer de manière illégale dans les systèmes informatiques. Mais en réalité, cette famille des hackers, elle est surtout composée de makers. Donc c'est des gens qui ne sont pas des crackers et qui, eux, ont plutôt des envies positives. Ils ont envie de fabriquer des choses. Vous voyez, donc on est vraiment à l'opposé de la philosophie cracker qui, elle, au contraire, va détruire. Et ces makers revendiquent complètement une histoire des hackers, qui est celle de l'informatique, de la contre-culture, etc., en disant, nous, on veut reconstruire autrement les choses, le monde, etc. Et il y a une tension, de fait, qui, dans cette famille-là, oppose d'un côté les pirates à ceux qui se définissent plutôt comme des bricoleurs, des bidouilleurs, des faiseurs de choses.
Et il y a une dimension là-dedans du mouvement hacker, on a l'impression quelque peu messianique. Il y a ce désir d'améliorer clairement le monde. Est-ce que vous diriez que le maker, aujourd'hui, est forcément militant?
Alors là, pareil, il y a une palette de sensibilités, mais ce qui est vrai, c'est que le mouvement maker est né, disons, de façon assez forte dans les années 70 aux États-Unis et notamment en Californie du Nord. C'est pour ça que j'ai été faire ce travail d'ethnographie là-bas, à la conjonction de deux mouvements qui ont transformé quand même notre époque. Le premier, c'est l'invention de l'industrie informatique, et avec cette industrie informatique dont on connaît tous les conséquences en termes d'outils qui ont complètement changé le monde, il y avait cette idée qu'il fallait inventer quelque chose qui repousse davantage les frontières dans la façon de mettre maîtriser l'information, d'en faire un usage productif, etc. Et puis les années 70, c'est aussi toute la contre-culture libertaire qui a été très forte, bien sûr, en Californie, à Berkeley, etc., mais dans le reste de l'Europe également, où il y avait cette idée qu'il fallait en finir avec un vieux monde composé de bureaucratie pour redonner la parole aux jeunes, à la base, etc. Et les makers sont le produit de cette histoire-là. Et donc, effectivement, il y a cette volonté de pousser toujours plus loin les limites, de redonner la parole à chacun d'entre nous pour être citoyen du monde, à la fois dans le bricolage le plus élémentaire, comme dans la construction d'un monde social commun. Maintenant, dans la réalité, il existe toujours des tensions entre, d'un côté, ceux qui prennent au pied de la lettre le message des hackers en disant le vrai hacking, le vrai making, c'est davantage le bidouillage informatique, et ceux qui vont pousser jusqu'à son terme cette philosophie du hacking en disant c'est toute la société qu'il faut changer également. Et donc, entre ces deux philosophies-là, parfois, il y a des frottements qu'on peut constater au quotidien.
On l'entend bien. Vous mentionnez que, également dans votre ouvrage, vous rappelez que les premières graines de ce mouvement hacking, ce mouvement maker, ont été semées au MIT dans les années 50. On trouvait un terreau assez fertile en Silicon Valley. Dans quelle mesure l'ère numérique a accéléré ce mouvement, alors à la fois par l'émergence de nouveaux modes de communication mettant en relation beaucoup plus facilement les gens, et également la création d'outils de fabrication tels que les imprimantes 3D.
Alors ce qui est complètement nouveau aujourd'hui et qui en même temps est un héritage direct de cette philosophie du hacking, du making qui est apparue dans les années 70, c'est deux choses. Première chose, c'est que on passe à un stade nouveau dans l'usage du numérique. Pour beaucoup de gens, encore d'ailleurs, le numérique, c'est le cloud. Ce sont des choses virtuelles, dématérialisées, etc. Ce qui est nouveau avec le mouvement Maker, c'est cette conjonction entre les instruments numériques, Internet au premier chef, et la possibilité qui est donnée de fabriquer des biens matériels à l'aide de machines que l'on va trouver dans ces hackerspace, Fab Lab, etc. Donc, en fait, il y a une nouvelle alliance, pourrait-on dire, hein, entre le matériel et l'Internet et l'informatique. Et c'est ça qui est vraiment nouveau et en même temps dans la continuité des années 70. La deuxième chose qui permet de faire la connexion entre les années 70 et aujourd'hui, c'est que toute l'industrie informatique et le mouvement maker s'est développé en se basant sur ce qu'on pourrait appeler une éthique, c'est-à-dire une série de principes qui ont constitué les façons de voir le monde, pourrait-on dire. Hein. Et parmi ces principes qui sont très très forts, hein, qui gouvernent la pratique ordinaire de beaucoup de makers, il y a l'idée, par exemple, que l'information doit être libre. Et ça va boucher sur une philosophie de l'open source, du free, du partage, du don, etc. Il y a cette autre idée qui est extrêmement importante, c'est que quand on fait quelque chose, quand on travaille, il faut avant tout que ça soit gouverné par la passion, par le plaisir, par l'intérêt. Et vous voyez qu'en disant ça, on est à mille lieues des formes de management qui aujourd'hui, dans leurs aspects parfois le plus négatif, vont mettre plutôt l'accent sur la pression, la contrainte, au risque de connaître tous les mots que l'on connaît, burn-out, addiction, suicide, etc. Donc il faut sortir du travail pour redonner droit au plaisir de travailler, de bricoler, etc. Et puis il y a une troisième chose qui est centrale aujourd'hui et qui est un héritage directement de cette éthique hacker, c'est l'idée d'horizontalité dans les modes de coordination. Et c'est pour ça que la philosophie anarchiste, qui n'est pas simplement l'absence de règles, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, qui est peut-être même exactement l'inverse, a beaucoup de succès dans ces milieux innovants, puisque on trouve l'idée qu'il faut le moins de niveau de management possible, pourrait-on dire, dans le langage de l'entreprise, et redonner la possibilité au collectif de travail de s'auto-gouverner pour pouvoir être à la fois flexible, respecter la personnalité de chacun et en même temps être très efficace dans l'innovation. C'est ça qui est fantastique.
Alors, on parle beaucoup en ce moment d'une forme d'évolution des modes de travail, notamment avec l'essor de l'économie collaborative. On peut également voir dans le domaine de l'éducation l'école 42 ou l'Holberton School à San Francisco qui centrent leur formation autour de la conduite de projet, l'économie collaborative qui va prôner un mode de travail autour de la mission. Qu'est-ce que tout ça dit de l'évolution du monde du travail? Est-ce qu'on va vers ça, vous pensez?
Alors, il y a au moins deux registres dans la question que vous posez. La première, qui fait explicitement référence aux espaces éducatifs que vous mentionnez, l'école 42 bien connue en France. Mais je pense qu'on peut mentionner aussi l'exemple de Simplon, qui est une belle illustration de réussite. L'idée, c'est que les valeurs qui sont véhiculées par le mouvement Maker, et parmi elles la plus importante peut-être, c'est l'idée que chacun d'entre nous est compétent dans un domaine. Et donc, on fait éclater les vieilles oppositions entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, qui demeurent quand même centrales dans la façon dont notre système éducatif fonctionne, quoi. Et donc ces espaces-là, les Fab Labs, les Hackerspace, mais aussi ces écoles comme Simplon, ce qui fait qu'elles sont nouvelles, en tout cas originales, c'est que on redonne une chance à des tas de gens qui ont été exclus du système scolaire et par l'apprentissage notamment soit du numérique, 42, Simplon, etc., soit tout simplement d'apprentissage d'outils comme l'imprimante 3D, une découpeuse laser, etc. Le fait qu'on va remettre en selle, des gens qui ont par ailleurs échoué dans le système éducatif classique, ça, c'est quelque chose qui est porté aujourd'hui par la révolution numérique. Ça va bousculer complètement notre rapport au savoir. Alors, il y a une deuxième version de votre question qui est importante, c'est la question, pour le dire vite, de l'ubérisation de l'économie qui aujourd'hui fait débat. Alors, ce qui est vrai, c'est que le numérique aussi, c'est ce volet-là. C'est-à-dire que la possibilité, grâce aux nouveaux instruments de communication, de court-circuiter les formes institutionnelles, les professions reconnues, les taxis par exemple, ou les hôteliers, etc., pour pouvoir inventer de nouvelles manières de se mettre en communication les uns avec les autres. Alors, ce qui est vrai, c'est que le mouvement Maker est moins sensible à cette dimension-là qu'à la dimension d'apprendre à faire par soi-même. Et donc, je dirais que l'ubérisation, c'est un des volets de la révolution numérique, mais qu'il faudrait très clairement la différencier du mouvement Maker qui est beaucoup plus sensible à d'autres choses. Deux idées fortes. La première, c'est que aux États-Unis, plus qu'en France d'ailleurs, les gens qui innovent dans les hackerspace, les Fab Labs, etc., pour eux, c'est pas un problème de tirer profit immédiatement de ce qu'ils vont innover. Il y a des tas de gens qui font des choses très très nouvelles dans les hackerspace, Fab Labs, ça peut être des applications, des machines, etc. Mais le but du jeu, c'est pas vraiment de faire de la monnaie, comme on dirait là-bas. Avant tout, c'est d'abord pour se faire plaisir.
Michel Lallemand, merci beaucoup. Rappel à nos auditeurs, s'ils souhaitent approfondir le sujet, je les invite à se procurer L'âge du fer, Hacking, Travail, Anarchie, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant, suite de cet atelier avec le World Tour, notre French Tech Tour, et puis juste après, nous irons du côté de la rédaction de Zeronet.com. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, dans cet atelier numérique sur BFM Business, eh bien, nous retrouvons notre French Tech Tour et on va s'intéresser à la ville de Paris qui investit dans la food tech. Voilà, les gourmands, restez là. On en parlera dans un instant avec Aurore et notre invité. Mais comme Aurore est déjà là, ça tombe bien. On va faire notre World Tour avec vous, Aurore, et notre invité, on va partir en Afrique.
Oui, alors nous recevons aujourd'hui Grégory Pepper, qui est Regional Manager pour le Seed Stars World. Grégory, bonjour.
Bonsoir, Aurore.
Alors, le 30 janvier prochain, il y aura un gros événement Seed Stars World sur l'Afrique. Vous avez été ces derniers mois dans plusieurs villes. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan d'un point de vue tendance de ce que vous avez pu voir au niveau start-up en Afrique?
Avec grand plaisir. Donc c'est vrai, en fait, dans les derniers 6 mois, avec l'équipe en Afrique, on a fait donc plus de 13 pays, 14 villes, à travers lesquelles on a organisé ces concours de start-up. Et donc dans les tendances, on va dire qu'il y en a vraiment deux qui se dégagent pour nous. La première, c'est donc due à tout ce qui est croissance de la classe moyenne. Donc on voit quand même beaucoup de solutions, malgré ce qu'on pourrait croire, qui se passe dans tout ce qui est e-commerce. Ou encore fintech, donc technologie financière, des solutions de paiement qui deviennent de plus en plus faciles, ou encore des solutions de transport à la Uber, que ce soit avec des motos ou encore des minibus. Et de l'autre côté, vraiment des solutions qui viennent contourner les problèmes, on va dire, plus fondamentaux, liées peut-être à l'infrastructure, dans lesquelles on trouverait des solutions, par exemple pour la santé, que ce soit l'accès aux services de santé ou encore l'information qu'on pourrait avoir, ou encore l'éducation. Et aussi, on a beaucoup de solutions au niveau de l'agriculture.
Donc c'est quel type ? C'est des manques d'infrastructures ou c'est la nécessité de remettre en place des services ?
Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a souvent des manques d'infrastructures, en particulier quand on s'éloigne des îles. On retrouve rapidement des endroits où, par exemple, je vous parlais de tout ce qui est santé, on n'aura pas d'hôpitaux, on n'aura pas du tout de services pour la santé. Et donc, on a besoin de services qui nous permettent, peut-être pas d'avoir un médecin sur place, mais au moins de comprendre si on est malade ou pas. Et puis, de manière générale, c'est vrai que certains services, même liés, par exemple, à l'éducation, ne sont pas optimisés, où on a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas venir en cours parce qu'ils vont préférer travailler ou faire d'autres activités. Et donc, il faut des services pour gérer ces problèmes-là et veiller à ce que l'éducation soit bien faite.
Alors, ça s'adresse plutôt à des particuliers, des entreprises ou vraiment des structures gouvernementales?
Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on trouve vraiment de tout dans ce niveau-là aussi. On va dire dans les trois catégories que j'ai nommées, on va à chaque fois trouver des startups qui vont faire directement pour un client en particulier, que ce soit au niveau de la santé pour trouver la pharmacie la plus proche qui aurait les médicaments nécessaires ou se mettre en contact avec un médecin qui pourrait lui donner des conseils. D'éducation aussi, ça peut être directement les gouvernements. On a vu des solutions qui en fait permettent de vérifier que tous les étudiants sont bien en cours, de vérifier que les notes vont bien aux parents après les cours. Et ça, c'est par exemple des solutions qui sont destinées au gouvernement ou encore en agriculture où on aurait des sociétés ou des agriculteurs qui eux aussi ont besoin d'accès à des informations qui n'arrivent pas forcément à avoir par eux-mêmes et donc des solutions qui leur amènent sans information. C'est vraiment, ça se décline dans toutes les catégories.
Et du coup, si on se tourne du côté de l'agriculture, est-ce que vous auriez des exemples de types de solutions, soit des start-up qui ont réussi et qui ont gagné même dans les régions que vous avez couvertes ?
Avec plaisir. Donc, je pense qu'on peut se déplacer dans deux cas un peu précis. Le premier, c'est le gagnant de SeedStars Nairobi, donc au Kenya, qui lui a développé en fait des serres avec des senseurs intelligents qui permettent en fait de tous les jours, en fait, à chaque heure, regarder la météo, l'humidité, la chaleur et d'autres variables, et ensuite donner de l'information à l'agriculteur qui, lui, arrive à décider quand est le meilleur moment pour arroser ses plantes, pour que son système d'irrigation se mette en place.
Via mobile ?
Via mobile, oui. En effet, là, c'est vraiment un mobile, on va dire, basique ou standard, qui n'est pas forcément smartphone.
D'accord.
L'autre solution qu'on aurait, par exemple, c'est celle du Botswana. La start-up qui a gagné, elle, est plutôt axée information, en fait, où elle va aller chercher non seulement du big data, et possiblement même utiliser des satellites pour regarder comment les terres se composent et quelles sont les meilleures choses, on va dire, à faire pousser dans le sol, les meilleures plantes ou autres. Et aussi, en fait, donner accès au prix en flux tendu aux agriculteurs pour qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment il faut qu'ils fassent pousser leurs produits et aussi quelle météo il fait. Donc c'est vraiment plutôt information. Donc on voit encore une fois de nombreuses solutions qui défilent.
Est-ce qu'il y a des zones particulières en Afrique qui sont meilleures à l'agritech ?
Alors en fait, ce qui est assez intéressant, on va dire, c'est que malgré les grandes différences qu'on peut avoir en fait à travers les pays, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la langue ou même, on va dire, du soutien gouvernemental pour ce genre de projet, on a vraiment des solutions, en fait, qui apparaissent partout. Parce que les problèmes eux-mêmes sont relativement proches ou relativement similaires dans les différents pays. Donc, on a vraiment, en fait, aux quatre coins de l'Afrique, on a pu voir au Ghana des solutions. On a pu voir en Tanzanie ou au Kenya, comme je vous le mentionnais, ou encore au Botswana. Et à chaque fois, avec des approches différentes. Et c'est ce qui rend aussi très intéressant ce qu'on a pu voir. Parce que chacun trouve une solution et une manière différente d'approcher un problème qui, pourtant, est très similaire entre chaque région.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci Grégory.
Merci Grégory.
Merci à vous.
Et après l'Afrique, place maintenant à Paris. On va s'intéresser toujours avec vous, Aurore, à la Food Tech qui, justement, investit Paris.
Donc du coup, pour le French Tech Tour de cette semaine, nous sommes en compagnie d'Olivia Polski, qui est donc adjointe à la maire de Paris, chargée du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et indépendantes. Et nous allons parler de la plateforme Smart Food Paris. Olivier, bonjour.
Bonjour.
La Smart Food, qu'est-ce que c'est ?
Alors, on ne va pas totalement réinventer la nourriture. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un monde en mutation et que la question de l'alimentation se retrouve au carrefour de plein de nouveaux enjeux, de plein de nouvelles questions. La question de l'alimentation, évidemment, est percutée de plein fouet par la question environnementale, par des questions aussi, évidemment, géopolitiques, puisqu'on voit bien que nourrir la planète est un enjeu qui fait écho à beaucoup de choses qui peuvent être en train de se passer. On a aussi des enjeux dans un monde qui bouge, des enjeux économiques, des enjeux de savoir-faire, de transmission, parce que la nourriture, c'est ça, c'est un secteur économique, c'est un secteur évidemment aussi très habité par les questions de santé, parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Donc l'économie, la santé, de l'emploi. Parce que quand c'est un secteur industriel ou artisanal, il y a de l'emploi. Et à Paris, c'est aussi de l'emploi de proximité, puisqu'on a beaucoup d'artisans dans Paris. Donc on est vraiment, on le voit bien. Et puis l'artisanat, donc du coup, c'est du visage de la ville. Hein. Il y a eu un article, il n'y a pas très longtemps, dans le Monde Éco, d'ailleurs, sur la question des centres-villes et de comment on pouvait continuer à avoir des commerces, et notamment des commerces de bouche dans les villes. Donc c'est un enjeu vraiment très important pour le quotidien des Parisiens, des Parisiennes et puis des Français évidemment.
Du coup, une plateforme, quelle plateforme ?
Alors l'idée, c'est effectivement de pouvoir générer de nouveaux usages, de nouvelles façons de répondre aux nouveaux besoins. Ça peut être ce qui a été beaucoup évoqué ces derniers temps, la question de la lutte contre le gaspillage, parce que on dit que la planète aujourd'hui, il y a une demande d'alimentation de ce qui va augmenter de 60%. Sauf que si déjà on arrivait à lutter contre le gaspillage alimentaire vraiment, on résoudrait déjà, je crois que c'est 50 pour le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose comme 50% des besoins. Donc on pouvait déjà répondre à grande échelle à la question du gaspillage. On aurait déjà beaucoup avancé sur cette question. Après, ça peut aussi être une façon de répondre aux nouveaux besoins, à la fois un besoin de proximité, d'authenticité, il y a des aspirations au circuit court. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train d'émerger. Et puis des enjeux de santé. Donc, comment cultiver en respectant la planète, comment nourrir en respectant la planète. Et puis évidemment, après, il y a tout ce qui est service, donc ça peut être la restauration. Comment la restauration demain s'adapte, comment la restauration peut répondre à de nouvelles envies, de nouveaux besoins. On voit bien qu'évidemment, tout ce qui est numérique vient interroger ce secteur de la restauration de façon nouvelle.
Donc concrètement, cette plateforme, c'est aussi une incubation.
Donc ça va commencer par des appels à projets, enfin un appel à projet où on va avoir un certain nombre. L'idée, c'est qu'on ait des startups qui puissent, qui se penchent, qui se travaillent sur ces questions-là, qui puissent répondre. Et puis après, effectivement, on voudra les incuber dans le 20e arrondissement, dans un lieu dédié.
Est-ce que c'est aussi, est-ce que vous avez des partenariats ? Est-ce que c'est de l'open innovation ?
Alors, il y a des partenariats de groupes industriels français. C'est Parisienco et la ville qui ont travaillé ça. Donc, effectivement, on a des partenariats avec Elior, avec le groupe Up, le groupe Danone et Carrefour, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est déjà dans un premier temps. Puis, on va aussi mener un travail avec les artisans, puisque on pense qu'une alimentation de qualité, c'est aussi lié à de l'industrie et aussi lié à ce qu'on est capable de faire dans la proximité.
Du coup, je crois que la Alfraissiné est attendue pour 2017. Là, vous parlez encore d'un autre type d'incubation. Est-ce que il n'y a pas trop de start-up à Paris ?
Les start-up, c'est plutôt un moyen de développer la nouvelle économie de demain. Donc nous, on veut une nouvelle économie de proximité aussi. Je crois qu'aujourd'hui, au contraire, on nous envie ce qu'on est en train de faire. Je crois que le travail qui a été fait, initié depuis déjà la précédente mandature par Jean-Louis Missika et Bertrand Delanoë, est salué maintenant un peu partout. On a la chance à Paris de pouvoir développer cette nouvelle économie-là. Et donc, on investit tous les champs dans la nouvelle économie. La start-up en soi, c'est une entreprise. Hein. C'est une petite entreprise qui démarre et puis qui a vocation, quand elle fonctionne, à devenir une grande et à créer de l'emploi surtout. Parce que on crée des entreprises et puis on crée de l'emploi. C'est aussi une forme de progrès.
Merci Olivia Polsky, donc je rappelle, qui est adjointe à la maire de Paris, chargée du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et indépendantes. Merci.
Merci Aurore. On revient dans un instant, suite de l'atelier, avec la rédaction de Zeronet.com qui me rejoint dans ce studio. On va jeter un œil sur l'actualité chaude high-tech du moment. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test d'Antoine avec aussi un hommage à David Bowie qui nous a quittés il y a quelques jours. Ce sera dans un instant, mais auparavant, direction de la rédaction de Zeronet.com avec Éric Le Bourlou, que je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef de Zeronet.com. Éric, aujourd'hui, on va revenir quand même sur la grosse actualité de ce début janvier. Oui. C'est le CES de Las Vegas qui a fermé ses portes maintenant il y a quelques jours. Il est temps de faire un petit point, ouais. Une petite conclusion.
Exactement.
De ce CES.
Alors il y a eu beaucoup de choses, hein, comme au terme d'habitude de CES, il y a à boire et à manger, on va dire. Hein, il y a vraiment de tout.
Surtout à Las Vegas, il y a beaucoup à manger.
Beaucoup à manger, c'est vrai.
Quelque chose. Oui.
C'est vrai, vous y étiez. et c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses encore une fois à ce CES. Alors bon, pour faire un petit, on va pas vous indiquer tout ce qu'on a fait sur 01net sur le CES, que ce soit en article ou en vidéo, ce serait beaucoup trop long.
On vous invite d'ailleurs à aller sur 01net.com.
On a un dossier très complet où on a vraiment, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant ce salon, et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais bon, ce qu'on peut distinguer quand même, c'est que ça a été vraiment pour le coup. Alors d'habitude, on dit toujours le CES, c'est le salon de la télé, le salon des écrans. Mmh. Et puis finalement, cette année, bon, il y avait toujours plein de télé, il y a toujours plein d'écrans, mais c'était plutôt, et là, ça a été vraiment une première, même si l'année dernière ça commençait déjà, ça a été vraiment le salon de la voiture connectée cette année, dans le hall où sont réservées aux technologies de l'automobile. Il y avait énormément d'innovations, hein, à commencer. Alors bon, il y a eu Ford évidemment qui a présenté ses nouvelles avancées en matière de voiture autonome. Il y a eu BMW aussi. Mm-hmm. Il y a eu toutes les grandes marques. Il y a eu aussi Volkswagen qui a présenté une nouvelle version électrique de son fameux van.
Ils évitent le diesel en ce moment.
Exactement. Ils ont présenté une espèce de relooking de leur van, fameux van des années 70, version électrique.
Le Buddy.
Il y a eu beaucoup de choses en matière de voiture autonome, voiture connectée. Il y a eu aussi Faraday Future, une mystérieuse start-up. On s'attendait à avoir une voiture à la Tesla. Bon, finalement, ils ont présenté un roadster énorme de 1000 chevaux, mais qui est assez incroyable et que je vous invite à aller découvrir sur le web. Mais en tout cas, oui, on a vraiment vu que maintenant, la voiture, c'est vraiment un des grands chantiers pour la numérisation. On a bien vu là toutes les technologies qui vont arriver en matière de voiture dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent.
Ouais,
c'était assez impressionnant.
Voilà, donc l'automobile. Après, il y avait des objets connectés, bien sûr.
Évidemment, les objets connectés. Alors, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés, énormes en matière d'objets connectés, mais on voit qu'effectivement tous les fabricants d'objets électroniques se passionnent pour ce nouveau marché qui est effectivement très porteur. Il y a eu beaucoup de montres connectées, en particulier celle de Casio qui a beaucoup marché, en fait, celle de Casio, une montre connectée pour baroudeur. Il y a eu beaucoup de bracelets connectés. Il y a on a eu aussi plein d'innovations un peu rigolotes, la semelle connectée, la chaussure connectée. On a eu tout se connecte en fait au CES. On verra après dans
le parapluie connecté aussi. N'oublions pas quand même cette innovation qui va bouleverser notre quotidien.
Voilà.
Peut-être jamais d'ailleurs.
On verra bien dans quelques années si effectivement le parapluie connecté.
Il y a même la Poste qui a lancé un objet connecté.
Même la Poste a lancé un objet connecté qui s'en sent beaucoup plus utile d'ailleurs que le parapluie connecté.
Je pense. Qui, rappelons-le, va vous permettre de retourner des colis. Vous savez que c'est vrai qu'aujourd'hui avec le e-commerce, on commande pas mal de colis, mais de par exemple d'habits ou même une paire de chaussures, et si ça vous va pas, on est obligé de retourner à la poste, remballer le colis, etc. Là, il suffit de mettre la boîte à chaussures, par exemple, je prends l'exemple de chaussures, de le mettre dans la boîte aux lettres. Vous appuyez sur le bouton de ce petit objet connecté qui s'appelle le domino qui est dans la boîte aux lettres, et là vous vous occupez plus de rien. Le facteur viendra chercher tout ça et le renverra donc à votre site de e-commerce. C'est pas mal du tout.
Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'objets connectés, moins de télé, on l'a dit, et puis puis aussi quelques petits produits qui se sont distingués quand même, hein. Et Cocorico, l'un des produits qui s'est le plus distingué, alors nous on l'a vu, mais on l'a vu aussi dans toute la presse internationale sur ce CES, c'est un produit français puisque c'est un drone, c'est le drone de Parrot. Alors Parrot voilà, sait faire aussi au CES, ils savent mettre en scène leurs produits, ils savent comment faire. Cette fois-ci, Parrot a lancé un nouveau drone qui n'a rien à voir avec les drones qu'il a présentés précédemment, puisqu'il s'agit d'une aile volante, hein, qui a plus une forme d'avion que d'hélicoptère, on va dire.
Qui s'appelle le Disco
et qui va sortir, voilà, on sait pas encore exactement quand, mais qui va sortir dans les mois qui viennent et qui promet, voilà, une nouvelle génération de drones qui sera beaucoup plus autonome, et qui s'inspire en fait des drones professionnels qu'utilise déjà Parrot dans d'autres secteurs.
Mais voilà, mais c'est une espèce de planeur connecté, on va dire.
Planeur connecté, voilà tout à fait,
avec
on peut le dire.
Un petit moteur,
exactement,
etc.
Mais qui va beaucoup plus vite qu'un drone, à
avec une autonomie de 45 minutes, hein, c'est ce que nous promet Parrot, avec une caméra, donc vous filmez tout ce que vous voyez.
Exactement. Bon, alors c'est un peu gros.
Oui, hein, c'est un peu gros.
Il faut avoir de la place pour l'utiliser, puis, puis ça peut être un peu dangereux aussi.
C'est sûr.
Faudra
préciser. Parce que vous prenez ça à 80 km/h dans la tête, je pense qu'on doit pas être content.
Exactement. Faudra faire très attention quand vous utiliserez ce petit jeu.
Parce que j'ai eu la chance de le sous-peser, c'est quand même assez lourd, ouais, mine de rien. Ouais. Donc,
vous 80 km/h, oui, c'est mal.
Je pense que ça doit, ouais.
Voilà. Donc, Parrot, c'est bien distingué. On a bien vu, ils ont fait un beau carton. Alors, il y a eu quelques autres produits comme ça, comme Huawei aussi, qui a profité un peu du CES pour présenter avant tout le monde, avant le Mobile World Congress, qui sera le prochain grand événement high-tech.
Le Mate 8,
ouais. Son nouveau smartphone, qui est en fait un des smartphones Android les plus performants au monde, tout simplement.
Et l'un des plus beaux aussi, j'ai eu la chance de le prendre en main, il est vraiment très joli.
Effectivement.
Voilà pour le CES, ce ne sont que quelques tendances. Vous voulez revivre ce CES 2016, c'est sur 01net.com et 01net TV, avec à la fois du texte, des photos et puis des vidéos. On a posté je ne sais plus combien de dizaines de vidéos.
Ouais,
il y en a beaucoup.
Ouais,
vraiment
ouais,
pour tous les goûts. On enchaîne, Eric, avec cette rumeur concernant l'iPhone 7. Voilà, l'iPhone 7 va sortir en septembre prochain. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, est dans le marbre. Hein. C'est comme ça depuis chaque année chez Apple. Et évidemment, les rumeurs les plus folles commencent à circuler.
Exactement. Alors celle-là, elle est effectivement folle, mais elle est assez crédible quand même, puisqu'elle est, elle a été plusieurs fois donc sortie de différentes sources. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passerait avec l'iPhone 7, c'est qu'il n'aurait plus de prise casque. Bon, on passe toutes les innovations qu'Apple va ajouter à son smartphone, mais là c'est un petit peu une révolution quand même. Il n'y aurait plus de prise jack dans cet iPhone 7, ce qui fait que voilà, tous les casques que vous utilisez aujourd'hui ne seraient pas forcément compatibles avec cet iPhone 7 par défaut.
C'est quand même assez courageux.
Très courageux. C'est étonnant parce que effectivement, on a la prise jack, on la connaît depuis des années et des années. On la connaît depuis le Walkman, on va dire. Hein. Peut-être même avant, je pense. Et Apple donc s'apprêterait effectivement à se débarrasser de cette prise jack pour utiliser sa prise propriétaire, hein, Lightning, qui vous sert déjà à recharger votre iPhone et qui vous servirait maintenant à connecter un casque. Ou alors utiliser, pourquoi pas, des casques sans fil, des casques Bluetooth par exemple, qui permettraient d'avoir la musique sans avoir à la connecter à votre smartphone.
Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi Apple ferait ça ? Pourquoi Apple enlèverait cette prise jack ?
Il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. Il y a déjà la finesse du téléphone. Hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment, si on veut faire un téléphone encore plus fin, comme il avait fait déjà sur les Mac, Apple peut supprimer une prise. Hein. Ils l'ont fait pour Ethernet par exemple, qui était la prise Ethernet est assez grosse, et donc pour pouvoir avoir des Macs plus fins, ils ont tout simplement supprimé cette prise.
Mais rappelons que pour Jonathan Ive, qui est le designer en chef de chez Apple, c'est vraiment une obsession, hein, la finesse. Hein.
Exactement.
Il est complètement
peut-être
dingue
trop,
de ça.
Ouais.
Voilà. Au détriment parfois de l'autonomie des appareils.
Exactement.
Parce que plus un smartphone est fin, moins il y a de batterie et moins il est autonome.
Exactement. Et donc la finesse, ça peut être une raison, mais il y a aussi une raison un peu business derrière, c'est-à-dire qu'Apple, en supprimant cette prise jack, va pouvoir
prélever quelques dollars.
Voilà, prélever quelques dollars à tous les gens qui fabriquent des casques et qui vont devoir s'acoquiner avec Apple pour proposer des casques avec une prise Lightning.
Et puis même aussi en termes de conception du téléphone, ça coûtera un peu moins cher. Il y aura des composants en moins.
Il y aura des composants en plus en moins. Ah donc effectivement, ça peut être tout bénéfice pour Apple. On verra en tout cas comment ça va être présenté, parce que c'est ça un peu le mystère, hein, comment Apple va pouvoir présenter la suppression d'une prise que tout le monde connaît et depuis des lustres comme une avancée technologique, parce qu'il va bien falloir que ce soit le cas.
Faut bien emballer ça au niveau marketing.
Exactement. Donc en tout cas, il s'avère effectivement que le prochain iPhone n'aura sans doute pas de prise casque.
Bon, à suivre, bien sûr.
Et on sait qu'Apple en plus peut entraîner le marché derrière, donc il est possible que derrière, tous les autres fabricants de smartphones fasse disparaître cette fameuse prise jack.
On verra, ça sera en septembre prochain. On va parler maintenant de Netflix et de sa déclinaison maligne avec Smartflix.
Oui. Alors Smartflix, c'est quoi ? Alors on a appris au CES aussi, toujours d'ailleurs, que Netflix, tout simplement, ils ont annoncé qu'ils étaient disponibles dans tous les pays du monde, excepté deux, je crois, la Corée du Nord et la Chine.
Et la Chine.
Voilà,
ouais.
Ils sont partout, ils sont désormais présents.
Ils ont
présents.
Réussi à passer des accords en fait, voilà. Des droits d'auteur avec tous les tous
avec
les pays.
Tous les pays et ils sont présents dans 190 pays.
Performance incroyable quand même.
Hein. C'est assez incroyable. Mmh. Mais le problème de cette petite annonce, cette grande annonce, c'est que finalement Netflix va avoir sans doute des soucis avec les ayants droit, parce que aujourd'hui de nombreuses personnes dans le monde utilisent des petits proxys, des VPN, des outils qui permettent d'utiliser un Netflix d'un autre pays que le leur, ce qui permet d'accéder à un autre catalogue.
Il faut rappeler qu'on a un catalogue local, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à Netflix France, vous avez le catalogue de Netflix France.
Exactement.
Mais si vous allez aux États-Unis par exemple, vous vous connecterez au Netflix américain et vous n'aurez pas du tout les mêmes programmes.
Exactement.
Alors vous en aurez en commun, mais pas forcément tous.
Vous avez un compte global mais un catalogue local. Et alors il y a un développeur qui est d'ailleurs anonyme, j'allais dire, il s'appelle Milan Anonyme, qui a créé un logiciel qui s'appelle Smartflix, et vous l'installez sur votre ordinateur, vous vous connectez à Netflix et là vous avez accès.
Donc là c'est pas pirate, hein, il faut vraiment être abonné à Netflix.
Il faut être abonné à Netflix.
D'accord.
Et en fait tout simplement, et en fait il profite de différents proxys, de serveurs proxys pour vous connecter à l'ensemble des contenus disponible sur toutes les plateformes Netflix. Donc, c'est-à-dire, vous avez envie de vous connecter à une série scandinave parce qu'elle est sur le Netflix scandinave. Eh bien, vous pouvez le faire avec ce logiciel. Alors, on l'a essayé, ça marche très bien.
Encore faut-il parler de scandinave.
Voilà. Alors, il y a des sous-titres parfois, mais il n'y a pas toujours des sous-titres.
Voilà,
c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Le problème, c'est la langue.
C'est vrai. Mais il y a souvent des sous-titres, donc vous pouvez quand même vous en sortir avec des sous-titres. Mais vous avez accès à l'intégralité du contenu de Netflix. Alors, ça pose un petit problème parce que, par exemple, l'année prochaine, Star Wars 7, Le Réveil de la Force, beaucoup de gens ont vu, mais beaucoup de gens aimeraient revoir, va être disponible, mais pas partout. Il sera pas disponible en France, par exemple, il sera disponible au Canada. Vous pourrez le voir sur Netflix, mais vous pourrez pas le voir en France, sauf avec cette application. Alors, on imagine bien que pour Netflix, ça pose un petit problème, parce que les ayants droit ont pas forcément envie de voir Star Wars 7 disponible dans le monde entier, sans avoir dealé les droits au niveau local avec tous les pays. Donc, Netflix a décidé que c'était fini,
Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours une parade technique pour contrecarrer le système?
Il y aura sans doute une parade technique, mais ça a déjà été le cas. Il y a déjà des gens qui ont pris des mesures contre ça. Netflix, finalement, ils laissaient faire, en vrai. Ils l'ont donc dit, d'ailleurs, ils laissaient faire. Ils s'en préoccupaient pas trop, mais maintenant qu'ils sont disponibles partout dans le monde, ils ne peuvent plus.
Les enjeux sont différents.
Voilà. Donc, ils vont essayer de bloquer vos proxys, vos débloqueurs. Il y a aussi des gens qui utilisent des débloqueurs, des VPN. Ils vont essayer de voir si vous utilisez un VPN, si vous n'êtes pas vraiment dans le pays concerné par le contenu, et ils vont vous bloquer. Alors, Smartflix devrait être bloqué dans les semaines qui viennent par Netflix. On verra bien si ça va être possible. Effectivement, comme vous le dites, il y aura sûrement des moyens de contourner ces protections nouvelles. Mais voilà, Netflix a officiellement déclaré la guerre aux bidouilleurs voulaient accéder aux autres contenus de Netflix.
Ouais. Et oui, c'est la nouvelle guerre, ça, de la dématérialisation et des frontières qui sont difficiles quand même à trouver sur le web.
Tout en sachant que l'objectif de Netflix, c'est d'avoir un catalogue global. Hein. C'est leur ambition, c'est avoir le même catalogue.
Mais c'est un vrai casse-tête pour les ayants droit, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci.
Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zéronet.com, chaque samedi dans l'atelier numérique sur BFM Business. La suite dans un instant avec Lila Megraoua et Antoine Cyr, avec un spécial hommage à David Bowie qui était véritablement passionné de nouvelles technologies. On en parle dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, cet atelier numérique est presque terminé, les amis. On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Et pour cette dernière partie, on va rendre un hommage à un chanteur, un artiste complet qui nous a quitté cette semaine. David Bowie, donc, qui nous a quittés. Antoine va nous parler de l'un des personnages clés de David Bowie, Ziggy. Ce sera tout à l'heure pour le crash test. Mais auparavant, Lila, alors vous êtes fan de David Bowie, j'imagine que cette nouvelle vous
comme
a,
nous tous évidemment,
nous a profondément choqués. Et vous vouliez nous parler de David Bowie et des nouvelles technologies.
Mais oui. Puisque David Bowie était, figurez-vous, à la fois excessivement curieux de tout ce qui regardait les nouvelles technologies, et on peut considérer que d'une certaine manière, il était visionnaire.
Ah oui.
Visionnaire. Alors figurez-vous que dès 96, il mettait en ligne et alors pas libre de téléchargement, mais il était déjà possible de télécharger son album Telling Lies, qui avait été téléchargé à l'époque, dès 96, 300 000 fois en 95.
Vous vous rendez compte, 96, c'était les tout débuts d'Internet.
C'était les tout débuts d'Internet.
On avait des modems qui étaient hyper lents pour télécharger, ça prenait un temps fou, quoi. C'est vraiment au tout début.
Mais tout à fait. En 97, il utilise, il met en place ce qu'on pourrait considérer comme l'ancêtre du live streaming, puisqu'il réalise ce qu'on appelait à l'époque un cybercast, hein, une retransmission en live sur Internet de son concert de sa tournée Earthling à Boston. Bon, après, sachant qu'en 97, il est fort peu probable que beaucoup d'internautes aient pu regarder cette retransmission.
Mais c'était quand même complètement visionnaire. C'est-à-dire que tout ça, maintenant, on le fait au quotidien. Hein.
Tout ça, YouTube, Periscope.
Mais il y a 18 ans, c'était proprement inimaginable, quoi. Donc, il avait déjà cette vision. Et c'est vrai qu'il avait déjà à l'époque, moi je me souviens, à la fin des années 90, un superbe site web qui était vraiment là encore en avance sur son temps.
Qu'il a lancé en 98, qui s'appelle BowieNet. Il confie dans une interview donnée à la fois au Computer World, que je vous invite à relire, il confie qu'il avait réalisé avoir environ 200 sites, qu'il existait déjà 200 sites autour de lui. Le regardant, il s'est dit, pourquoi ne pas lancer carrément mon fournisseur d'accès Internet. Donc, il était possible de recevoir Internet à travers ce service-là, qui s'appelait BowieNet, et qui était une vraie communauté de fans. Donc, vous aviez votre adresse mail davidbowie.com.
Ça, c'est la classe.
Ça, c'est quand même la classe. Vous aviez accès à du contenu. Il y avait également les premiers chats en live avec l'artiste. Avec l'artiste, donc dès 98, il sentait déjà la
dimension du web, quoi, en fait.
Des réseaux sociaux, ce qui allait venir beaucoup plus tard. Il a expérimenté aussi. C'est l'un des premiers artistes à avoir expérimenté également les avatars 3D. 3D. Et il confie toujours dans cette même interview que s'il avait eu 19 ans en 99, il ne se serait non pas lancé dans la musique, mais lancé dans le web. Parce que selon lui, c'est là qu'aujourd'hui, donc en 99, se niche la subversion et non pas dans la musique, la musique.
D'ailleurs, vous savez qu'au début, il se considérait comme un écrivain.
Oui.
Et donc, il se considérait comme un écrivain.
Et il a hésité pendant très longtemps entre les deux. Mais c'est vrai que c'est un artiste complet. Merci beaucoup, Lila. Voilà, David Bowie qui était véritablement en avance hein, à l'époque concernant le web et les expérimentations qu'on faisait, parce qu'à l'époque c'était des expérimentations. Hein. Antoine, on poursuit cet hommage à David Bowie via le crash test avec un personnage. On parle tout à l'heure, Lina parlait d'Avatar.
Mais justement, le personnage virtuel, le double virtuel, Bowie l'a inventé avec Ziggy d'une certaine manière. Alors, et beaucoup d'hommages à Bowie sont aussi des hommages à Ziggy, ce qui montre la persistance de ce personnage.
Ziggy Stardust. Hein,
Ziggy Stardust. Et donc, par exemple, dans Les Inrocks, sur le site des Inrocks, donc évidemment aussitôt après la mort de Bowie, un très bel article de Francis Dordor, dont je vais vous lire un extrait, qui commence par « C'est assez dingue comme histoire, mais en quelques mois, en gros entre l'été 1972 et le printemps 1973, nous sommes passés des patogas aux plateformes boots argentées, des parkas de surplus militaire aux vestes en velours à col en cygne, des cheveux longs et gras à des coupes en dégradé qu'aucun merlan n'étant capable de réaliser tel que voulu, nous tentions le soir même d'en parfaire l'échelonnement avec une paire de ciseaux devant la glace au lieu de plancher sur nos devoirs de philo. La plus déroutée dans l'histoire restait quand même notre mère, qui se demandait où avait bien pu passer son bâton de rouge à lèvres, son fard à joues ou son rimmel avant d'en retrouver médusé des traces suspectes sur des Kleenex mis en boule dans la corbeille de nos chambres ou, signe d'un changement radical de priorité, des posters d'Alice Cooper, d'Orange Mécanique et de David Bowie avaient remplacé ceux d'Albert Einstein, de Che Guevara et d'Eddie Merckx. Mais voilà, la veille encore...
Le contraste était fort.
Mais voilà, la veille encore, nous nous sentions encore pareils à d'insignifiantes petites chenilles condamnées à ramper sur la bande grise d'un quotidien rectiligne, effrayées à l'idée de finir comme nos parents, écrasés sous le poids d'une quelconque hiérarchie ou de responsabilité familiale avec crédit pour la maison et crédit pour la bagnole. Et puis, Ziggy est arrivé. Je vous laisse découvrir la suite sur le site des Inrocks, mais c'est donc signé Francis Dordor. Alors, pour en savoir voilà un peu plus sur le personnage de Ziggy, vous pouvez aller par exemple sur le site de l'internaute qui fait une très bonne explication, qui dit voilà il rejoint donc Bowie, Ziggy Stardust, le personnage qu'il avait créé de toutes pièces en 1972 et qu'il avait incarné durant un an avant de l'abandonner pour une fois de plus se réinventer. David Bowie a inventé Ziggy Stardust comme son alter ego fantasque, élément centrale de son album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Il le présente pour la première fois au public sur le plateau de l'émission anglaise Top of the Pops en juillet 72. Vous pouvez voir cet extrait sur YouTube. Là, on voit David Bowie, cheveux roux et costume bariolé, qui interprète Starman sous les traits de ce nouveau personnage androgyne. Alors, Ziggy Stardust, il est inspiré de Vince Taylor, qui était un chanteur de rock britannique des années 60. Et le nom de Ziggy Stardust viendrait du Legendary Stardust Cowboy, qui est un chanteur de country qui partageait le même label que David Bowie, c'est-à-dire Mercury. Voilà. Ziggy Stardust, évidemment, a beaucoup inspiré de gens qui font des sites, notamment de gens qui font des sites perso. Par exemple, j'ai trouvé un site néo-zélandais, qui s'appelle The Ziggy Stardust Companion. Donc là, vous avez vraiment tout sur Ziggy Stardust. Et alors, c'est assez marrant parce que on sent vraiment une envie de traiter le sujet scientifiquement. D'abord, il y a le welcome. Alors là, la philosophie de ce site est très simple. Je vous traduis de l'anglais, hein, mais mes connaissances en anglais me permettent de traduire à la volée ce texte puissant.
Donc, de manière insolente.
De manière insolente, voilà. Donc, il s'agit de célébrer les magnifiques réussites de la musique de rock et de fournir de l'information détaillée à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le chef-d'œuvre de 1972, The Rise and Fall, donc la grandeur et décadence en quelque sorte de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, les araignées de Mars. Donc, avec votre aide, mon intention est de rendre ce site aussi détaillé que possible. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les envoyer. Alors, il y a une rubrique qui s'appelle What's New, il y a une rubrique qui s'appelle L'image du mois. Donc, il y a tous les mois des informations nouvelles sur Ziggy Stardust. Donc, je sais pas, voilà, le personnage est quand même virtuel. Donc, on apprend apparemment des choses nouvelles tous les mois sur ce personnage virtuel. Il y a des fans de Bowie qui donnent des conseils, qui donnent du matériel et puis Mike Harvey, qui est le propriétaire de ce site internet, dit je fais de mon mieux pour répondre tous les emails, mais notez quand même que Ziggy Stardust Companion, c'est le nom du site, n'est pas un site qui est un site de fans qui passe des mails à David Bowie. Alors maintenant, cet avertissement, malheureusement, ça va être un peu moins nécessaire. Bon, et alors, ce qui est quand même pas mal, c'est que vous pouvez trouver, alors vous avez, comme sur un site d'informatique, finalement, vous avez les FAQ, les Frequently Asked Questions. Et puis, vous avez quand même tout le matériel d'époque destinée à créer le personnage de Ziggy Stardust, le communiqué de presse, les brochures, tous les éléments qui avaient été créés autour de Ziggy Stardust pour accompagner le lancement.
Oui, parce pour étoffer le personnage.
Pour étoffer le personnage, parce que quand même, notre ami Bowie était aussi un génie des relations publiques. Donc tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le site The Ziggy Stardust Companion. Alors, je me suis aussi demandé si Ziggy Stardust était sur Twitter. Parce que, voilà, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de prolonger la vie de Ziggy Stardust sur Twitter. Et là, quelle n'a pas été, mes amis, ma déception, de constater que la personne qui avait eu l'idée sur Twitter, parce qu'il y en a eu une, évidemment, de s'appeler Ziggy Stardust, c'est une personne, voilà, je vais donner son nom, elle s'appelle Stéphanie N. Rotondo, elle a rejoint Twitter en avril 2007, elle est de Seattle, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Elle a mis comme bio « We could be heroes just for one day ». Donc là,
ça commence bien.
Là, pour jusqu'ici, tout va bien. Mais, figurez-vous qu'elle a protégé ses tweets. Donc, on n'a pas accès à ses tweets. Mais on a juste accès à son compteur de tweets. Elle a fait 29 tweets. Elle suit 28 personnes. Elle est suivie par 8 personnes. Et elle a fait un like. Autrement dit, on est dans la misère, ah ben la oui. misère de voilà. Alors, est-ce que il va y avoir
le pseudo Ziggy Stardust mériterait
Est-ce qu'il va y avoir une pétition pour la déchoire de tweetitude par utilisation insuffisante de cette adresse quand même Ziggy Stardust. Je ne sais pas, je m'interroge. Mais enfin voilà, je livre quand même ce cas de sous-utilisation d'un compte Twitter, ce cas grave à votre tribunal webistique. Voilà.
Oula, c'est beau ça, pour terminer. Merci Antoine, voilà l'hommage d'Antoine Cyr à David Bowie via le crash test avec Ziggy Stardust. Cet atelier est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, chaque samedi 16h-18h sur BFM Business. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.